Je voulais d'abord vous dire quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet, en écho à ce qu'a dit Olivier Feiertag à l'instant sur la démarche qui a présidé à ma recherche, qui a donné lieu à ce livre qui vient d'être publié et que je ne souhaitais pas du tout commémoratif. Ça peut vous paraître presque hypocrite de dire ça, mais vraiment, c'est un travail, comme vous l'imaginez, de longue haleine. Je n'avais pas du tout imaginé que l'ouvrage qui en est tiré serait publié à l'aube de l'année supposément commémorative. Je n'aime pas beaucoup l'idée de commémoration. Je trouve que les commémorations, je ne suis pas la seule à le penser, ont tendance un peu à figer, à pétrifier, voire à embaumer le passé. En général, quand on commémore, c'est pour considérer que c'est bel et bien fini, hein, c'est bel et bien derrière soi. Donc je pense que c'est, au contraire, ce qui est intéressant avec 1968, comme avec bien d'autres mouvements sociaux, bien d'autres événements d'ampleur internationale, c'est d'y penser dans sa reviviscence, dans sa manière de réactiver aussi le présent. Donc c'est assez évidemment l'éditrice et l'éditeur qui ont publié le livre ont considéré qu'il fallait pas le faire à l'automne 2017 comme c'était prévu au départ, mais moi j'aurais presque préféré, dans la mesure où c'est vrai que ça peut être aussi un peu inquiétant, mais on pourra en discuter éventuellement si vous le souhaitez, cette idée par exemple que l'État et le gouvernement commémoraient 1968, c'est presque un contresens historique, mais encore une fois ça peut tout à fait se discuter. Alors la démarche a consisté à travailler uniquement, quasiment uniquement, sur des sources, des archives qui ont émergé au vif de l'événement, hein, c'est-à-dire qui ont été produites pendant la grève générale, pendant la contestation, et un peu tous azimuts, hein, c'est-à-dire que j'ai vu aussi bien des archives, bien sûr, des comités de grève, des comités d'action, des comités de quartier, des syndicats, des organisations politiques, des mouvements dans leur ensemble, des journaux intimes, des correspondances, donc énormément de documents, parce que évidemment le propre de l'histoire contemporaine, et notamment très contemporaine, et la singularité encore davantage d'un événement comme celui-ci, c'est de produire des sources à profusion. Et évidemment, j'aurais pu continuer mes pérégrinations un peu partout en France et à l'étranger pour trouver ces sources. J'ai eu le souci en particulier de décentrer l'événement et de varier ces échelles. Bon, c'est devenu bien sûr classique et fort heureusement en histoire, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire de 1968 une réduction au quartier latin ou à Nanterre, au boulevard Saint-Michel, à la Sorbonne, certainement pas, parce que, comme on va pouvoir le voir, eh bien l'événement a été présent partout, partout, partout. Et donc parmi les archives que j'ai abondamment utilisées figurent les archives départementales, dont j'ai fait un véritable tour de France, même si encore une fois je suis frustrée de ne pas avoir pu continuer parce qu'il fallait bien s'arrêter, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, matériels, humains de le faire de manière exhaustive. Mais c'était passionnant de voir dans les archives par exemple des préfets, les archives de police, les archives de la gendarmerie, des renseignements généraux entre autres, et bien de mesurer à quel point précisément l'événement a lieu dans toutes les communes, pas seulement dans les grands bastions ouvriers, pas seulement dans les grandes entreprises auxquelles on a tendance à penser spontanément lorsqu'on évoque 1968. La démarche, donc, avec ces sources diverses, consistait assez, là aussi, légitimement en historienne et en historien, à essayer de ne pas partir de tout ce qu'on a dit sur 68 et qu'on continue à dire en considérant parfois, c'est un peu le discours dominant, mais qui est en train de changer, me semble-t-il, depuis le début de cette année 2018 qui fait figure de cinquantenaire. Mais le discours dominant pendant des années et des années, ça a été précisément de considérer que c'était surtout une révolution culturelle, même si, à mon avis, c'est juste, mais pas seulement, de considérer surtout que les conséquences de 68 aurait été l'individualisme, le néolibéralisme, le présentisme, tout ce cortège de mots au suffixe en isme, qui évidemment n'ont rien à voir avec 68. Par exemple, je trouve que c'est un contresens historique absolu de dire que le néolibéralisme serait une conséquence de 68, ou l'individualisme, pas davantage, dans la mesure où il n'y a rien de plus collectif dans la pensée et la pratique de l'émancipation pendant l'événement 68, que ce moment-là, justement. Donc, il faudra, on peut en discuter, mais l'idée, donc, c'était ce retour aux sources pour faire émerger la parole des protagonistes et éviter justement tous ces clichés. Un événement ne se réduit pas à ses conséquences présumées. Alors, toujours dans cette petite présentation de la méthode et de la démarche, ce qui m'a intéressé, bien sûr, c'est de ne pas me focaliser uniquement sur le mois de mai. On parle de mai 68. Moi, je n'aime pas beaucoup évoquer cette expression mai 68. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Évidemment, c'est pas seulement des questions chronologiques, mais à mes yeux, ce sont des questions profondément historiques et politiques, parce que vous allez le voir en juin. Même si je ne vais pas faire la chronologie des événements, je vais essayer de prendre l'événement de manière plus transversale et thématique, mais en juin, le mois de juin 68 est évidemment très lesté d'enjeux sociaux, politiques extrêmement importants. Et ce n'est pas parce que le général de Gaulle, président de la République à l'époque, déclare le 30 mai en quelque sorte que l'événement doit être terminé, qu'il faut en finir, et qu'il faut en finir notamment par les élections, puisque c'est le 30 mai 68 que le général de Gaulle décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est pas pour autant que l'événement se termine. La grève se poursuit avec des millions de personnes qui sont encore en grève. Et il y a des tensions extrêmement fortes, il y a des morts, les morts de juin et les morts trop oubliées de juin 1968. Il importe de parler de 68 dans son ensemble, parce que trop d'acteurs, notamment trop d'observateurs, y compris à ce moment-là, au début du mois de juin, c'est le cas par exemple de Raymond Aron, hein, qui est le philosophe éditorialiste bien connu, hein, qui écrit dans Le Figaro à cette époque, vous voyez, le 1er juin, il dit « Ah ben voilà, c'est terminé, et on va pouvoir maintenant faire l'histoire de ce qui s'est passé ». Et évidemment, on peut considérer que ça, c'est une parole qu'on peut nommer, sans trop de jargon, performative. Performative, ça veut dire que c'est une parole qui agit. Donc Aron, en disant « l'événement est terminé, on va pouvoir en faire l'histoire », il se contente pas de faire un constat. En fait, il veut... Voilà, que l'événement se termine. Et toute proportion gardée, hein, ça me fait penser à l'obsession des élites du 19e siècle, notamment de tout le premier 19e siècle, qui disait « la révolution est terminée ». Hein, c'est ce que disait aussi Napoléon Ier en arrivant au pouvoir. Hein, « la révolution est terminée, on peut maintenant en faire l'histoire ». Et là, à l'échelle très fine de l'événement 68, c'est un peu la même hantise de la part de ceux que la contestation, ceux ou celles que la contestation inquiète. Eh bien, c'est voilà, comment canaliser l'événement, comment canaliser donc la grève, et notamment cette grève générale, pour l'achever. Mais au-delà de l'après-mai, hein, ce qui m'importait, et c'est toujours voilà, un dernier point de cette introduction, ce qui m'importait, c'était de revenir sur le mythe des Trente Glorieuses. Alors le mythe en tant que, tout simplement, sans forcément de caractère péjoratif, mais en tant que c'est une expression qui a été forgée par définition a posteriori, hein, donc dans les années 75 et suivantes, par l'économiste et essayiste Jean Fourastier. 30 glorieuses, voilà, 30 glorieuses de prospérité, de croissance, et il est indéniable que le taux de croissance dans la France des années 60 est tout à fait remarquable. C'est pas le niveau du Japon à cette époque, par exemple, ou de l'Italie, mais c'est un taux de croissance de l'ordre de 5%. Simplement, comme vous le savez bien, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, et le taux de croissance n'est pas le seul critère de lecture d'une période. Donc pour comprendre aussi le surgissement de 68 et aller au-delà de ce qu'on en dit souvent en citant un article que certains d'entre vous, peut-être parmi les plus anciens, connaissent, à savoir l'article de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde en février 68, qui est titré « La France s'ennuie ». Alors souvent, on ne va pas au-delà. Et d'ailleurs, on ne prend pas la peine de lire cet article. Mais en fait, dans cet article du début de l'année 1968, intitulé donc « La France s'ennuie », Pierre Viançon-Ponté pointe du doigt un certain nombre de réalités internationales et nationales, politiques et sociales, qui indiquent que les années qui précèdent l'événement 68 sont des années critiques. Il indique notamment toutes les mobilisations qui ont lieu à l'échelle internationale. Et l'événement 68, il est profondément international. Il est profondément même, on pourrait dire, transnational. Il est transnational parce que on voit à quel point les frontières sont poreuses, à quel point les gens, les personnes circulent de plus en plus, alors surtout les étudiants et les étudiantes, mais pas seulement, des militants aussi, qui circulent et qui font de toute façon circuler également les expériences, les savoir-faire, les répertoires d'action. C'est un événement profondément international parce que partout dans le monde, y compris en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Mashrek, en Turquie, au Japon, évidemment dans les pays de l'Est, supposément démocratie populaire, qui n'ont ni rien de démocratique, ni rien de populaire non plus, mais jusqu'au campus de Berkeley ou de Los Angeles, eh bien, voilà, il se passe des choses, et non seulement il se passe des choses, mais il y a cette conscience historique d'un événement en train de se vivre en commun. Et on ne peut pas comprendre 1968 si on n'a pas en tête, bien sûr, Cuba, la Chine, les révolutions dites du tiers-monde, les révolutions d'émancipation, notamment de décolonisation, et puis bien évidemment le Vietnam. En général, quand on discute, notamment avec les plus jeunes d'entre vous, sur le déclenchement de l'événement 68, on a tendance à avoir les réponses qui sont pas fausses, sur « Ah, il y avait les garçons qui voulaient aller dans les cités universitaires des filles parce que les règlements intérieurs l'interdisaient, etc. » C'est pas faux du tout, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des carcans moraux qui pèsent sur cette société, surtout sur ces jeunes. Il y a notamment ce qu'on appelle la double morale, notamment sexuelle. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que les garçons, les jeunes hommes, sont incités à avoir des expériences sexuelles assez précoces. En revanche, il est quand même bien vu qu'une jeune femme préserve sa virginité jusqu'à son mariage. C'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais c'est quand même une norme sociale dans un certain nombre de milieux. Pour autant, avoir cette étincelle en tête, et c'est vrai qu'il y a eu des mobilisations dans les universités, dont ici, pour avoir un dérèglement intérieur assoupli. La véritable étincelle, c'est justement la guerre du Vietnam, ce sont les arrestations de jeunes gens qui ont protesté de part et d'autre de l'Atlantique et d'un bout à l'autre, en fait, de la planète, contre l'intervention des États-Unis au Vietnam. Alors, je le disais rapidement, récuser le mythe des Trente Glorieuses, ça veut dire quand même réfléchir à cette notion de prospérité. Et on pourra là aussi en parler si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'une prospérité véritablement? Qu'est-ce que la prospérité dans une société où il y a 5 millions de personnes qui vivent encore en France en 1968 sous le seuil de pauvreté? 5 millions de personnes vivent en France en 68 sous le seuil de pauvreté. 2 millions de personnes touchent un salaire qui est l'équivalent aujourd'hui de 600 euros à peu près. Donc il y a des petits salaires. On travaille beaucoup aussi pendant cette période-là. La moyenne de l'amplitude hebdomadaire de travail, c'est 46 heures, parfois 48, parfois 50. Hein, dans certains domaines, dans certains secteurs, comme le bâtiment, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler dès l'âge de 16 ans. Je vous le rappelle, les étudiants et étudiantes, dont on parle beaucoup à propos de 68, ne représentent qu'une toute petite minorité de leur classe d'âge. Hein. Et donc, en ce sens, c'est vrai qu'ils peuvent apparaître comme des privilégiés. Hein, ils sont environ 12% de leur classe d'âge, les étudiants. Donc, ça veut dire, ce qui dit 12%, ça veut dire que tous les autres jeunes de 16 à 25 ans sont déjà des salariés. Donc, 30 glorieuses, pas si glorieuses finalement, surtout si on affine encore une fois la chronologie, et on peut considérer qu'il y a un retournement de conjoncture aux alentours de 66-67. Alors, on s'en souvient plus forcément, y compris quand on a vécu la période et qu'on se dit « mais la crise, c'est pas du tout ce moment-là, c'était le plein emploi en 68, il n'y avait pas de problème ». En réalité, dans toutes les manifestations, par exemple du 1er mai 68, l'un des mots d'ordre, c'est « défense de l'emploi ». Défense de l'emploi, on considère à cette époque, selon des évaluations qui sont encore fragiles, et c'est pas anodin que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ait été fondée en 1967, ces statistiques sont encore fragiles, mais on considère qu'il y a environ 500 000 chômeurs, ce qui à l'époque apparaît considérable. Et c'est vrai que quand on travaille sur les archives préfectorales, un peu partout dans les départements divers, que ce soit dans des départements à majorité rurale ou des bastions industriels, eh bien, on voit des entreprises qui ferment ou qui licencient. Et donc, il y a une véritable inquiétude, à la fois donc sur l'emploi, mais aussi sur les salaires. Alors, si on entre maintenant dans le vif du sujet de l'événement, même si, bien sûr, tout ce que je vous ai dit y était déjà un des cœurs, je voulais commencer par rendre hommage à Volinsky, qui, dans ce dessin de l'époque, campe un peu cette supposée conflictualité entre deux générations. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Ben, la révolution. Et donc, bien sûr, il faut s'interroger. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu un conflit générationnel? Pour ma part, je ne le pense pas. Même si les jeunes ont été à l'avant-poste, en réalité, 68, c'est d'abord une grève générale qui a concerné 10 millions de personnes qui ont arrêté de travailler. Ça veut dire 7 millions de salariés environ, et puis 3 millions d'artisans, d'agriculteurs, qui ne sont pas salariés, ou certains d'entre eux le sont, d'étudiants et de lycéens. Et donc parmi ces 10 millions de personnes, évidemment qu'il y a un brassage intergénérationnel. Donc la lecture qu'on a pu faire d'un 68 qui serait à l'origine d'un combat entre des générations, avec le mot très péjoratif que pour ma part je n'aime pas du tout, hein, qui est 68ards, voilà, les 68ards ne nous auraient rien laissé, auraient dévoré leurs enfants, tel le dieu Chronos, hein, que vous voyez manger ses enfants. Bon voilà, non, ça ne tient pas la route. L'histoire que je vais vous faire, c'est pas l'histoire de Daniel Cohn-Bendit. Donc, je commence par l'évacuer gentiment, avec cette affiche quand même magnifique. Évidemment, il ne s'agit pas de récuser ou ni même d'atténuer le rôle de Daniel Cohn-Bendit. Mais le problème, c'est qu'on l'a un peu trop entendu et surtout, on a un peu trop associé 1968 à Daniel Cohn-Bendit, négligeant par là les millions de personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, dans un camp ou dans un autre, ou sans aucun camp, d'ailleurs, on va en parler, il y a la peur, il y a des indifférents à l'événement. Mais en tout cas, évidemment, 68 ne se réduit pas au trio Jesmar, Cohn-Bendit, Sauvageau. Pourtant, Cohn-Bendit est présent dans les archives policières, mais alors c'est une obsession de la police, de la gendarmerie. Je vous donne juste une anecdote et puis ensuite on parlera un peu moins de Daniel Cohn-Bendit. Mais Daniel Cohn-Bendit, donc vous savez, il n'a pas la nationalité française à cette époque. Il est allemand, il a une nationalité allemande et il est juif. Tout ça crée une vraie peur de Cohn-Bendit du côté des autorités, du côté des opposants à la contestation. Certains proches du pouvoir gaulliste, très proches de De Gaulle lui-même, disent clairement « si M. Cohn-Bendit veut appliquer les méthodes de M. Hitler, il peut retourner dans son pays ». Donc il y a quelque chose de très malsain, évidemment, dans la détestation de Cohn-Bendit du côté des partisans de l'ordre. D'où ces affiches, hein, nous sommes tous des indésirables, nous sommes tous indésirables. Le préfet de Meurthe-et-Moselle est interpellé à un moment par le patronat pour que la police, les forces de l'ordre viennent lever les piquets de grève. Et le préfet répond au patronat, notamment minier, hein, des industries minières de Lorraine. Ah mais désolé, nous n'avons plus de force suffisante parce que nous sommes vraiment postés à la frontière pour éviter que Daniel Cohn-Bendit ne revienne. Et donc c'est l'obsession, voilà, parce que Daniel Cohn-Bendit, qui s'est éloigné un moment pendant l'événement, il est retourné en Allemagne, il ne peut plus rentrer, il est interdit d'accès au territoire français et ça durera pendant des années et des années. Eh bien c'est vraiment, il faut l'empêcher à toute force de rentrer. À tel point d'ailleurs que, en fait, justement, toute la police est mobilisée, y compris, j'ai retrouvé ça dans les archives de Guéret, dans la Creuse. Tout à coup, il y a une rumeur qui circule selon laquelle Daniel Cohn-Bendit est réfugié dans un vieux moulin abandonné. Voilà, toute la gendarmerie arrive dans ce vieux moulin, commence à fouiller, etc. Et il n'y a personne. C'est vous dire, en fait, l'incarnation, évidemment, l'idée que de Cohn-Bendit, en fait, derrière Cohn-Bendit, il y a un complot, quoi. Il y a un complot, alors avec beaucoup de contresens, parce que Cohn-Bendit, c'est un libertaire, hein, c'est un anarchiste. Hein, il est dans un petit groupe à Nanterre qui s'appelle Rouge et Noir. Mais ça ne va pas empêcher les gaullistes qui manifestent le 30 mai de dire « le rouquin à Pékin ». Hein, le rouquin à Pékin, bon, c'est-à-dire alors que Daniel Cohn-Bendit, il n'est pas du tout maoïste, il n'aime pas du tout le régime de la Chine populaire. Plus grave, parce que ça va au-delà du simple contresens politique, ce qu'on entendra aussi dans les manifestations pro-gaullistes de ce moment-là, c'est Cohn-Bendit à Dachau. Darao, Dachau, c'est évidemment, voilà, c'est vous dire, bon, évidemment, Darao à cette époque, ça n'a pas encore le sens qu'on lui prête, on n'a pas encore suffisamment réfléchi historiquement à ce que sont les camps d'extermination. Il n'empêche, c'est un slogan d'une immense gravité et qui traduit dans l'hostilité, au minimum à Daniel Cohn-Bendit, quelque chose de l'ordre de la germanophobie et de l'antisémitisme. Pour autant, donc voilà, l'événement ne se réduit pas à 68, à Cohn-Bendit, et il ne se réduit pas non plus à l'esthétique de pavés posés délicatement sur des grilles d'arbres qui ont été bien utiles à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, voilà, l'événement, il est partout. Il est aux États-Unis, il est à Tokyo, il est à Prague, bien évidemment, le printemps de Prague, qui sera finalement écrasé, mais qui représente un espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Et puis, il y a ce même clivage, hein, cet affrontement fondamental entre les forces de l'ordre et une partie de la jeunesse et au-delà de la jeunesse. Vous le savez, hein, ce qui est le déclencheur véritablement de l'événement, c'est ce rapport à la violence. La France face aux jeunes, titre Le Nouvel Observateur, avec la photographie d'un jeune homme ensanglanté. Vous connaissez sans doute cette photo incroyable et terrible de Gilles Caron, où on voit à quel point ce qu'on appelle à cette époque le bidule, hein, c'est-à-dire cette grande matraque de certains policiers, s'apprête à frapper de toutes ses forces. Ça a suscité évidemment une très très forte indignation qu'on retrouve. Alors L'Enragé, c'est un petit journal, alors il y a d'autres journaux qui s'appellent L'Enragé à cette époque, mais L'Enragé, c'est un journal de Rouen et de Mont-Saint-Aignan, et qui parle vraiment à propos des policiers de tueurs à gages, hein, comme on le voit ici. Et là, alors vous pouvez pas lire, mais c'est pas grave, hein, faites-moi confiance, ce qui est écrit là, c'est une lettre des instituteurs du canton de Pontarion dans la Creuse, qui s'adresse au Premier ministre pour protester contre les violences policières qui ont lieu contre les jeunes à Paris. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, dans des petites communes rurales de la Creuse, voilà, on a une mobilisation, en l'occurrence ici d'enseignantes et d'enseignants, d'indignation face à la violence policière. Alors j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce qui compte dans cet événement et dans ce rapport d'abord à la violence, c'est son historicité. Son historicité, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? C'est l'idée qu'il y a une conscience historique. Là, qu'il y a quelque chose, on a conscience que l'histoire est en train de se faire, qu'on est en train de vivre un événement. Mais dans cette conscience, il y a une sorte de condensation du temps. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se projeter dans le futur, j'en parlerai, mais on a aussi conscience que le passé rejoue, que le passé est vivant. Et donc, il y a notamment, ici, comment ne pas y penser, Sharon. Voilà. Sharon, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas bien ça en tête, hein, Sharon, c'est la manifestation. Sharon, enfin, c'est pas Sharon, Sharon, c'est simplement le nom d'une station de métro, mais qui a été le lieu, entre autres, il y a eu d'autres lieux d'un massacre. L'historien Alain de Verpe a parlé d'un massacre d'État, hein, c'est-à-dire que 9 personnes ont perdu la vie lors de la répression policière de cette manifestation à la toute fin de la guerre d'Algérie, hein, qui entendait protester contre les attentats de l'OAS, hein, de l'Organisation Armée Secrète. Et donc on a de toute façon en 68, dès le début des événements, dès le début du mois de mai, des situations qui font que les personnes qui sont prises dans ces affrontements, et notamment parfois qui sont plaquées comme ça dans des escaliers de métro, sur des grilles de métro, ne peuvent que se rappeler Sharon. Et d'ailleurs, il y a des cris qui fusent et qu'on voit, qu'on entend dans les films, qu'on voit dans les bandes, qu'on perçoit dans les bandes son des radios et également dans les archives policières. C'est Sharon, ils vont recommencer. Donc il y a cette conscience-là qui... en fait, va galvaniser sans doute des énergies. Bon, là, j'aime bien cette photo parce que elle est, parce qu'il y a une sorte là aussi de presque de beauté, de dans les gestes des manifestants. Mais il n'empêche que ça supposait évidemment un certain courage réciproque évidemment. Tout à l'heure, Olivier parlait d'un engagement de l'historienne ou de l'historien. Bon, moi, je m'en cache pas, évidemment, que j'ai travaillé sur cet événement parce que je trouve qu'il est porteur d'espoir, parce qu'il est porteur de projets, parce que c'est le moment d'une grande prise de parole, c'est le moment où tout un chacun, toute une chacune se sent légitime à prendre la parole, à faire quelque chose de politique au sens très fort du terme, c'est-à-dire à faire du commun, faire cité, etc. Pour autant, cet engagement-là, le fait que je me sente une proximité, que je me dise, voilà, il y a des choses qui peuvent nous inspirer aujourd'hui dans la situation politique présente, ça n'empêche pas de bien faire, je l'espère, mon travail. Et donc, d'avoir aussi une lecture pour le moins compréhensive à l'égard des policiers, quand je travaille sur les archives policières. Et de fait, hein, ce que nous disent ces archives, c'est que bah, eux aussi ont peur. Ils ont très peur. D'ailleurs, on les voit là pour certains qui s'essuient les visages, qui sont eux aussi parfois blessés, qui transportent certains d'entre eux qui sont atteints. Donc la violence, bien sûr, elle est c'est une spirale de la violence et qui est une spirale réciproque. Et les policiers, en plus, ils souffrent beaucoup à cette époque, non seulement de tensions physiques. Donc on voit, par exemple, on peut suivre leurs revendications, le fait que il y a des consignes, des circulaires hein, qui édictent qu'il faut jamais sortir seul quand on est un policier, même en tenue civile, même en dehors du service pendant cette période. En plus, ils sont réquisitionnés pour de longues périodes dans la journée, dans la nuit, etc. Donc il y a aussi beaucoup de fatigue nerveuse, physique, etc. Et puis ils s'estiment la plupart du temps mal équipés, ils se disent mais qu'est-ce qu'on a en face de nous, c'est quand même incroyable. Je vous assure qu'il y a des commissaires de quartier, pas seulement à Paris, loin de là, dans beaucoup de villes, qui disent mais c'est incroyable, ces jeunes-là, ils ont une habileté, ils ont un savoir-faire, ils ont une sorte de courage aussi physique auquel on ne s'attendait pas. Et ils disent clairement, nous on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça et on n'est pas prêt à ça. Et ça c'est dans des rapports du planton jusqu'au ministère de l'Intérieur, là, on fait ce constat que finalement, la police française, dans ses différentes déclinaisons, hein, CRS et gardes mobiles, c'est pas la même chose que les policiers municipaux, même la police nationale. Mais il y a quand même ce constat que on n'a jamais vu ça, même en remontant au combat de la libération, et que la police n'est pas prête à ça. Et en plus, les policiers se sentent lâchés, en fait. Ils se sentent lâchés par le pouvoir, parce que Pompidou est très hésitant, Premier ministre à l'époque. D'un côté, il est ferme, et puis parfois, il dit il faut rouvrir la Sorbonne. Alors, les policiers disent vous voulez rouvrir la Sorbonne, alors que nous, ce qu'on nous a ordonné de tout faire pour empêcher les étudiants d'entrer dans la Sorbonne. Donc, il y a des tensions qui font que une première, peut-être, idée à aussi remettre en cause, c'est le Maurice Grimaud. Alors, Maurice Grimaud, qui était le préfet de police de Paris à cette époque, qui avait succédé à Maurice Papon, de très sinistre mémoire, le responsable des massacres du 17 octobre 1961 contre les Algériens à Paris, de Charonne dont on vient de parler. Évidemment, Maurice Grimaud et Maurice Papon n'ont rien à voir. Il n'empêche que Maurice Grimaud, si on suit vraiment les archives de la préfecture de police de Paris, eh bien, encourage les policiers à aller de l'avant, ne donne pas de consigne jusqu'à la fin du mois de mai, ne donne pas de consigne pour modérer ses troupes. Et au contraire, il loue leur courage, il loue leur ténacité et il leur donne des primes, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que leur donner des primes. En fait, il rajoute, il supprime les congés, etc., parce qu'il faut mobiliser toutes les forces. Mais en revanche, il leur donne des récompenses et des primes. Donc, évidemment que Maurice Grimaud peut être considéré comme un préfet beaucoup plus humaniste que Maurice Papon, son prédécesseur, mais il est très étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de victimes, plus de morts en 68. Il y en a eu, on pourra en reparler, mais étant donné le degré de violence, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu davantage de morts. Alors, vous ne pouvez pas forcément bien voir ce dont il s'agit, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai mis ce tableau. Ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les archives de la préfecture de police, le 3 mai 68. Ce sont les personnes qui sont interpellées ce jour-là. Et alors, ça, c'est chaque jour, et puis deux fois par jour, ce genre de tableau qu'on peut dresser, avec toutes les fiches d'interpellation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que il n'y a pas que des étudiants. En fait, dès le début des événements, dès le 3 mai, il y a des ouvriers, tauliers, conducteurs typographes, tourneurs, ouvriers en bâtiment, etc. Des techniciens, électroniciens, aides-monteurs, des employés de bureau, SNCF, EDF, etc. Des boulangers, des charcutiers, des cuisiniers au Berlitz Opéra. Des employés de restaurant, chefs de rang à la Bouteille d'Or, etc. Des plongeurs, des coursiers, des vendeurs. Hein. Bon. Et donc, il y a déjà un brassage social. Dès le début des affrontements, il n'y a pas encore eu de barricade, etc. Hein, on n'est pas encore lancé dans la grève. Et pourtant, il y a déjà ces rencontres. Et notamment, je vous ai mis les dates, vous avez bien compris, correspondent aux dates de naissance. Donc il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a un retraité qui est interpellé là au beau milieu des lancers de pavés, hein, né en 1903, donc il a 65 ans. Bon, il est là au milieu quand même de jeunes. Globalement, il y a quand même, c'est vrai, un phénomène générationnel. Bah oui, enfin, vous n'avez peut-être pas envie, vous, moi, parmi les plus âgés d'entre nous, n'est-ce pas, d'aller vous affronter physiquement, à des policiers. Ça peut s'expliquer assez facilement qu'il y ait une grande, grande, grande majorité de jeunes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant surtout ici, ce sont les rencontres sociales qui président à ce début des événements. Ce qui nous permet de récuser une autre idée qui serait, bon voilà, ça a commencé par les étudiants. Après, il y a eu la grève générale à partir du 13 mai, donc c'était plutôt les ouvriers et les salariés. Et puis après, dernière étape, le pouvoir a repris la main, donc c'est plus que le pouvoir qui est concerné. C'est faux. Non seulement c'est faux parce que on le voit dès le début, encore une fois, il y a des jeunes qui, dès que les affrontements commencent au quartier latin, y vont pour prêter main forte et se sentent une conscience de solidarité réciproque qui va au-delà de la dimension très pratique de faire face à la police. Mais en fait, ça avait commencé bien plus tôt. Et moi, je pense que 68 ne commence pas en 68, mais commence en 67. Parce qu'en 67, il y a déjà énormément de grèves. C'est d'ailleurs un pic dans les grèves, l'année 67. Et puis, par ailleurs, il y a dans ces grèves, dans ces mobilisations, notamment d'agriculteurs, et notamment dans l'Ouest, en Normandie, en Bretagne, entre autres, toute la campagne l'Ouest veut vivre, il y a des grandes manifestations d'agriculteurs qui sont soutenues par des ouvriers, des syndicats ouvriers, des syndicats enseignants et aussi des étudiants. Et par exemple, à Quimper, c'est à Quimper en 67, hein, l'automne 67, qu'on a les premières barricades. Et les premières barricades, ben, c'est pas dans le quartier latin, c'est pas par des étudiants, c'est par des paysans mobilisés. On pourrait aussi considérer que 68 commence véritablement en janvier-février. Bon, oui, l'année commence en janvier, oui. L'événement 68 peut être considéré comme débutant en janvier-février 1968, à savoir à Caen, et Caen, ça a été très, très, très important, ça a été un symbole, la presse en a beaucoup parlé, et souvent, enfin, regardez ce qui s'est passé à Caen, à Redon, à Besançon, etc. Parce que à Caen, c'était des jeunes ouvriers et ouvrières, dans des industries plutôt mécaniques, métallurgiques, etc., très mal payés, qui venaient la plupart du temps d'un milieu rural, et le patronat avait cru que justement en délocalisant un certain nombre d'usines depuis la région parisienne vers, en l'occurrence, le Calvados, ça allait permettre à une main d'œuvre docile d'être payée moins cher, d'être payée moins, et de travailler plus, etc. Et en fait, c'était un mauvais calcul. Et les archives départementales du Calvados, notamment les archives du préfet, qui s'appelle Gaston Pontal, préfet du Calvados à cette époque, disent le désarroi des autorités. Parce qu'à Caen, janvier-février 68, alors là, c'est la panique. Parce que là, on a des affrontements très violents, on a des pavés, on a des grilles d'arbres arrachées, etc. Et le préfet Gaston Pontal écrit au ministère de l'Intérieur et dit « Regardez attentivement ce qui se passe ici. » Il fait des rapports très détaillés, très circonstanciés, parce que ce qui se passe ici, ça risque de se reproduire à l'échelle nationale. Et il avait vu juste. Donc voilà, enfin là, ça serait un autre exemple, des interpellations du 24 mai, où vous voyez tout autant, vous voyez des cordonniers, des apprentis coiffeurs, des décorateurs, des pâtissiers, des instituteurs. Il y a même quelque part une jeune femme qui est mannequin, par exemple, de son état, des laveurs de carreaux, des magasiniers, bon, voilà. Et donc, brassage social qu'on retrouve dans différentes villes, et brassage aussi de nationalité. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, les archives de police, elles nous sont très utiles parce que il y a des fiches et des fiches et des fiches. On sait tout sur l'identité des gens. Parfois même, on rentre dans leurs appartements parce qu'il y a la description des perquisitions dans les logements des gens. Bon, évidemment, je n'en ai rien dit et j'ai tout anonymé dans le livre, mais voilà. Et donc, ça veut dire ici, il y a des gens qui viennent d'Algérie, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Tunisie, de Yougoslavie, voilà. Donc c'est un mouvement qui est très international, pour les raisons d'abord que je vous ai dites tout à l'heure, un mouvement profondément mondial, mais il est aussi très international dans ses pratiques immédiates. Alors les barricades, bien sûr, alors je vous ai choisi des photos un peu moins connues que celles qu'on a l'habitude de voir dans la presse, parce que j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de planches originales pour une exposition qui va avoir lieu bientôt à la Bibliothèque nationale de France, qui récuse un peu, là aussi, l'idée d'icônes. Il n'y a pas que les icônes telles qu'on les connaît. Voilà. Alors moi, j'adore cette photographie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est C'est comme un général d'armée là qui charge sabre au clair. Voilà, ça c'est la première nuit des barricades, comme vous le savez. Mais ces photos, elles sont quand même assez rares de voir voilà ce degré de violence, ce degré de violence. Et encore une fois, de part et d'autre. Alors, les barricades. Elles n'ont pas énormément d'efficacité tactique. Hein. C'est vrai qu'on peut se dire que parfois les contestataires construisent et érigent des barricades dans des endroits qui relèvent plutôt du piège, de la souricière, dans des petites ruelles, voire des impasses. Et donc la police n'a pas trop de mal à en venir à bout, mais elles sont surtout symboliques. Et moi, j'aime pas du tout l'idée que les gens en 68 auraient joué. À l'histoire, aurait joué aux barricades comme sous la Commune en fait, parce que c'est trop facile. Nous, on sait comment ça s'est terminé. Finalement, c'est vrai, il n'y a pas eu de révolution, sans qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Olivier le rappelait tout à l'heure. Enfin, quand on est le 10 mai, dans la nuit du 11 mai, 10 au 11 mai 68, première nuit des barricades, il y en aura deux autres, et que tout est ouvert. Voilà, il y a cette violence qui rentre dans l'histoire, la police qui se dit mais on n'a jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe. On peut pas savoir ce qui va se passer, et beaucoup espèrent. Quand même, qu'il y aura un changement radical. Pas forcément une révolution, mais en tout cas que quelque chose va changer fondamentalement. Et peut-être que le régime va tomber, au minimum. Et donc, les gens ne s'amusent pas. De toute façon, il faut quand même être très courageux. Moi, je vous mets au défi. Hein. Je me suis posé la question la semaine dernière, parce qu'il y avait une grande manifestation, enfin, grande, elle n'était pas si grande, mais la première manifestation parisienne et rouennaise, voilà, et entre autres, contre la sélection à l'université. Et puis, j'ai entendu dire, il y avait des rumeurs qui circulaient, il y a des barricades qui se dressent. Bon, c'était évidemment de fausses rumeurs, mais je me suis dit, mais est-ce que j'irai, moi, sur les barricades? Et c'est là que j'ai pu mesurer à quel point, oui, il faut quand même un certain courage, et encore de part et d'autre, comme on le voit chez ces policiers qui chargent, et qui sont en effet pas très très bien équipés, ils s'en plaindront. Le mouvement est international, je vous le disais aussi, parce qu'il a cette conscience de la solidarité nécessaire. Donc, très tôt, on trouve voilà l'affirmation selon laquelle il faut se protéger mutuellement, et protéger les plus fragiles, non pas du tout par constitution physique, mais les plus fragiles parce qu'ils sont en danger, les étrangers. Et ils sont très nombreux, les étrangers, à se mobiliser. On l'a vu comme ça très rapidement avec le tableau des nationalités des protagonistes. Il va y avoir beaucoup d'expulsions d'étrangers. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Africains de manière générale, mais aussi des Espagnols, qui sont la plupart du temps des militantes ou des militants antifranquistes, qui vont purement et simplement être reconduits à la frontière dans les conditions de danger pour leur liberté au minimum, voire leur intégrité physique, que vous pouvez imaginer. Et il n'est pas rare, alors là, vous voyez, c'est les archives départementales de Seine-Maritime, hein, toujours le journal L'Enragé que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le journal du comité de grève des étudiants de Rouen, donc c'est un clin d'œil aussi, mais dans ce journal, on insiste beaucoup sur la solidarité entre Français et étrangers, et notamment en photographiant, voilà, ici c'est la CGT, enfin c'est Citroën, la CGT Citroën, et donc c'est, voilà, il n'est pas rare de voir des banderoles, des pancartes, des tracts en plusieurs langues, en arabe, en espagnol ou en portugais. Alors, encore une fois, je vous ai dit, je ne vais pas faire la chronologie des événements, ce qui m'intéresse plutôt c'est de pointer du doigt un certain nombre de thématiques. Vous savez sans doute que le 13 mai, représenté ici via Toulouse, c'est le début de la grève générale. Les syndicats appellent à une journée de grève, une journée, 24 heures de grève généralisée. Et j'ai choisi cette photo parce que même si elle est de très mauvaise qualité, je l'ai prise tout simplement dans la dépêche du midi dans les archives départementales à Toulouse. J'aime beaucoup cette photo parce que malgré sa piètre qualité, c'est la place du Capitole, remplie de monde, parce que il y a des manifestations, mais partout, le 13 mai, y compris dans des communes rurales. Il y a énormément de manifestations, comme on peut le voir ici, à Paris, c'est beaucoup plus classique, mais c'est à perte de vue, c'est une très belle photo vers la Bastille. Et puis, les premières occupations D'usine. Alors, moi, ce qui, enfin, d'usine, d'entreprise en général, parce que évidemment, la singularité de 68, c'est pas seulement la grève généralisée, 10 millions de personnes, on le disait, mais c'est s'approprier l'espace. Et c'est ça aussi qui fait du politique, s'approprier les espaces. Alors, évidemment, bien sûr, on pourra en reparler, le Front populaire, alors, voilà, le Front populaire rejoue, mais ce qui va au-delà du Front populaire en 68, c'est que bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux qui sont occupés, pas seulement des usines dans le monde industriel. Et d'ailleurs, dans ces usines, c'est de la toute petite usine. J'ai trouvé à Épinal, dans les archives départementales des Vosges, de toutes petites usines textiles, parfois qui comptent 10 salariés. Et il y en a une, par exemple, où le patron se sent solidaire, en fait, des ouvriers en grève, et il leur fournit le tissu pour la banderole, des manifestations, etc. Donc ceci pour dire que voilà, il n'y a pas que Billancourt ou Peugeot-Sochaux qui sont occupés. C'est parfois de toutes petites entreprises, mais aussi voilà, des bureaux, des ports, des théâtres, des lycées, des universités, des magasins, des maisons de la culture, des maisons des jeunes, etc. Et donc s'approprier l'espace, comme on voit en fait sur cette photo, c'est aussi se fixer un programme, se fixer un agenda. Voilà, qu'est-ce qui se passe jeudi? Eh ben, vous pouvez aller au meeting, mais on va aussi faire une réunion sur l'autogestion. Vendredi, il y aura un spectacle, il y aura des artistes qui vont venir. Puis tiens, dimanche, on va organiser, s'il y a des musiciens parmi vous, des musiciennes, venez. Voilà. Donc cette appropriation de l'espace, c'est aussi une redécouverte des espaces, notamment des espaces de travail, parce qu'évidemment, ça, Simone Veil, donc Veil avec un W, hein, la philosophe Simone Veil, pendant le Front populaire, qui travaillait en usine, elle avait déjà dit, elle a écrit des textes magnifiques sur la grève pendant le Front populaire, elle disait, mais ces endroits où on était tellement épuisés, malheureux, avec la peur, avec cette pression considérable du travail, de la chaîne, etc. Tout à coup, cet endroit, on le retrouve et on le découvre différemment. Et c'est très fort en 68 aussi. Et puis parfois, ça va jusqu'à des tentatives de communes. Hein, c'est comme ça qu'on a appelé l'expérience qui est vécue à Nantes, la commune de Nantes. Parce qu'à Nantes, la particularité, c'est d'avoir opéré cette tentative intersyndicale de prendre l'hôtel de ville. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de mairies occupées, d'ailleurs. Hein, beaucoup, beaucoup de mairies occupées. Notamment dans le sud de la France, on ne pourrait pas forcément l'imaginer. On peut toujours se dire que le sud est moins mobilisé dans les mouvements sociaux que le reste de la France. Mais non. Mais à Nantes, en fait, l'occupation de l'hôtel de ville a donné lieu à une forme d'autogestion de la municipalité par les grévistes, par les syndicalistes en particulier. Donc, comme vous voyez ici, avec des bons d'essence, on a essayé de faire des collectes pour organiser l'alimentation, pour organiser le ravitaillement, etc. Donc ça a été une expérience. Et évidemment, c'est pas anodin qu'on ait parlé de la commune, parce que la commune, ça revient tout le temps. C'est une des obsessions historiques de 68. En 68, il y a ce qu'on pourrait nommer une expérience sensible de la chose politique. Une expérience sensible au sens où le corps, voilà, il y a du corps. Hein, et le corps, c'est pas le politique, c'est pas une abstraction. Quoi, les mouvements sociaux sont pas désincarnés. Quoi, il y a des corps. J'aime bien cette photographie de Jean-Pierre Terre parce qu'elle est, voilà, elle indique le mouvement. Vous savez, c'est dans ces manifestations où les jeunes, c'est un apprentissage qui vient du Japon, qui est passé par les campus aux États-Unis et qui est revenu en Europe occidentale, c'est faire des manifestations comme ça, où on court, où on s'assoit par terre, les sit-in. Ça peut paraître, voilà, moi, Rouen, hein, vous reconnaissez, peut-être, devant la pâtisserie du Palais, qui, me semble-t-il, n'existe plus. Mais voilà, on s'assoit par terre. Et ça, bon, évidemment, peut-être que ça peut nous paraître banal, surtout plus jeunes d'entre nous, mais en réalité, c'est déjà subversif. Qu'il y ait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, que ce soit par terre, occuper l'espace de cette manière et faire de son corps aussi un message politique. C'est important, ça donne lieu à l'expérience sensible du politique que j'évoquais. Et parmi les protagonistes, des femmes. Alors, j'ai travaillé justement en Vendée, entre autres, enfin voilà, dans l'ouest de la France. Alors, par exemple, là, à La Roche-sur-Yon. Alors on pourrait se dire, La Roche-sur-Yon, c'est quand même pas forcément le grand bastion de la Révolution. Mais en fait, C'est assez incroyable parce qu'en Vendée, dans les ports, il y a une mobilisation mais considérable et puis des grèves très très féminines. Par exemple, dans l'entreprise Big Chief, où on fabrique des jeans, il y a quasiment que des ouvrières. En fait, il y a très très peu d'ouvriers, c'est quasiment que des femmes. Et ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'assoient par terre dans leur usine, elles dressent des tentes, etc. Bon, et puis elles organisent des fêtes, elles organisent des bals. Et donc les femmes, très présentes, c'est un autre exemple, l'usine Bata, ici en Dordogne, à Neuvic-sur-Lille, des femmes. Je vous ai représenté cette photographie parce que ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines d'entre vous. Enfin, voilà, c'est ça un peu la norme sociale, voilà, des années 60. Vous vous rappelez que, bon, c'est pour ça que quand on dit, oh là là, ce jeune-là qui voulait surtout rentrer dans les cités universitaires, des filles, c'était quand même assez strict comme ordre moral, quoi. Donc, même si elles sont souriantes et joyeuses, hein, sur cette photographie, et c'est tant mieux. Mais, voilà, il y a quand même le sentiment de la nécessité d'une libération. Et ça va pas de soi, parce que quand même, les femmes, elles sont d'abord et avant tout à cette époque considérées comme des mères, des épouses au minimum. Et c'est valable aussi, par exemple, au PC. Hein, au cœur de l'événement 68, le Parti communiste français, dans ses bulletins d'adhésion, on est en 68, hein, mai 68, il distribue des bulletins sur la fête des mères. Et donc, il dit, voilà, vive les mamans et les mamans qui sont si douces. Enfin, c'est des rôles, voilà, beaucoup sont familiers avec cette idée-là, que c'est les rôles de genre, voilà, le genre féminin qui est là quand même. Et vous allez voir, c'est utilisé un peu partout. C'est utilisé, alors les femmes, elles sont, vous connaissez La Maman et la Putain, hein, le film de Jean Eustache. Donc, soit c'est des mamans, soit c'est des putains. Et alors du côté des situationnistes, vous savez, les situationnistes, c'est un courant politique, philosophique, ils sont pas très nombreux, mais ils ont une influence considérable, c'est eux qui écrivent les slogans qu'on connaît en 68. Eh ben, ils sont pas très féministes. Et donc, dans leur détournement, ils utilisent des bandes dessinées qui détournent. Mais là, c'est un exemple. Alors, voilà, c'est une jeune femme, elle est en train de se rhabiller ou de se déshabiller, on sait pas très bien. Et voilà, c'est « je n'aurais jamais dû épouser un ministre, je file dans une usine en grève », donc sous-entendu, il y va pour des raisons pas forcément justement très très politiques. Et puis, on le retrouve, alors, je vais y revenir à ça, juste un autre exemple, c'est aussi le cas du côté des gaullistes. Alors les gaullistes, voilà, qui sortent cette affiche « Les femmes de France, un appel solennel, afin que chacune fasse entendre sa voix ». La voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine. Unissons-nous pour la raison et pour la paix, dans le calme et le travail. C'est-à-dire que les femmes, du côté du pouvoir et de ses partisans organisés, ont aussi un rôle à jouer. Elles sont douces, elles sont calmes, elles sont modérées, et elles vont pouvoir justement convaincre leur mari d'arrêter la grève. C'est intéressant quand même. Et donc on voit que le rôle des femmes, il est quand même très très cantonné, quand bien même elles seraient des protagonistes. Hein, voilà, là c'est l'usine de Petit-Quevilly, les fermetures éclairs, elles sont là aussi, toujours Rouen, c'est une photographie que j'ai trouvée ici même. Elles sont là dans les services d'ordre aussi, hein, bras dessus avec leurs camarades masculins. Je vous montre pas forcément ça. Elles ne sont pas seulement des icônes. Elles ne sont pas seulement des Marianne juchées sur les épaules de leurs camarades, comme Caroline de Bendern, que vous connaissez peut-être, qu'on voit ici à gauche et au centre. Caroline de Bendern, la pauvre, mannequin, jeune étudiante, venue des États-Unis, fille et petite fille de riches industriels, qui s'est fait purement et simplement déshériter à cause de cette photo de Jean-Pierre Rey. Et oui, parce qu'elle portait en plus le drapeau du Front National de Libération Vietnamien. Voilà, c'est une très belle image, et Caroline de Bendern a été choisie pas par hasard, parce qu'elle est très belle, c'est une mannequin, etc. Mais les femmes de 68 ne se réduisent pas à cette belle Caroline, nouvelle Marianne de la Révolution, mais elles sont aussi dans les usines, elles lancent des pavés, c'est ce qu'on voyait sur ce film, mais je vais pas vous le montrer parce que je suis déjà beaucoup trop bavarde, elles sont aussi dans les magasins occupés, etc. Et j'aime beaucoup ce texte de Leslie Kaplan, l'écrivaine Leslie Kaplan, qui écrit dans un texte consacré à 68, « Des femmes avaient apporté des chaises dans la cour, elles tricotaient. » Tu vois ça? Des femmes assises sur des chaises en train de tricoter dans une cour d'usine, sous le grand ciel bleu et blanc. Elles tricotaient, elles discutaient. Venir la nuit, parler aux hommes, transgression. Et là, justement, quand on travaille sur les rôles de genre, on voit bien qu'il y a une tension, parce que les femmes, elles sont là, elles sont dans les usines. Parfois, c'est pas du tout évident hein, qu'elles le soient, qu'elles occupent la nuit. Parfois, il y a une opposition de certains syndicalistes qui ne voient pas ces pratiques d'un bon œil, et d'autres syndicalistes vont l'encourager, au contraire. Et puis, ces femmes, elles sont aussi parfois syndiquées, bien sûr. C'est une transgression. C'est vraiment une double transgression, c'est une double effraction. Comme le dit l'historien Xavier Vignat, spécialiste de l'insubordination ouvrière, c'est une double effraction parce qu'il y a d'abord le fait d'occuper son lieu de travail et puis le fait de le faire en tant que femme aussi. Alors, je parlais de l'historicité de l'événement. Alors là aussi, Jean Ferniaud, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose de plus ancien. Jean Ferniaud, c'était le chroniqueur de RTL. Tous les matins, je ne sais plus exactement à quelle heure, il me semble... Je l'avais en tête, ça, mais je ne me souviens plus. Il délivrait une chronique de quelques minutes, très fine souvent, très intelligente, pleine d'intuition de la chose historique et politique. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Jean Ferniaud, il montre justement cette espèce de condensé historique que représente 68. Parfois il nous parle de 1848, parfois il nous parle de la Commune, du Front Populaire, de 1944, etc. Ben voilà, c'est écrit 8h15. Il en a tiré un livre, mais on peut trouver ses archives aussi à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. 14 mai 68. On ne sait jamais comment les révolutions commencent. En 1848, Louis-Philippe fut chassé par les pavés des rues et non par la campagne des banquets. Ceux qui font les révolutions ne sont jamais ceux qui en profitent. Les hommes du 13 mai, événement dont on a fêté hier discrètement le 10e anniversaire, retour au pouvoir du général de Gaulle, en savent quelque chose. 18 mai. La CGT et le Parti communiste, mieux éveillés qu'en 1936, s'efforcent de freiner le mouvement, ou à tout le moins de le contrôler. C'est pas tout à fait faux, on pourra en reparler. 30 mai, il faudra savoir terminer une grève, comme le déclarait Maurice Thorez en 1936. 2 juin, et alors là, c'est là qu'on a cette espèce de sarabande historique. En un mois à peine, s'est déroulé à grande vitesse le film de toutes les révolutions françaises. Un peu de prise de la Bastille, un peu des Trois Glorieuses, 1830 donc, un peu de 48, un peu de Commune, un peu de Front Populaire, un peu de Libération, tandis que les Français de l'ordre se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la rumeur lointaine de ce qu'ils croyaient être la vieille grande voix du Faubourg Saint-Antoine à Paris, en fait du côté de la Bastille, où ont souvent émergé les révolutions. Donc cette espèce de condensé historique, il est présent, en fait, il est présent partout. Je vous dis tout à l'heure, on parle beaucoup de la Commune, on parle beaucoup du Front Populaire. Et il y a aussi cette façon de faire rejouer l'histoire, des textes historiques. Par exemple, si je vous lis ça, montage situationniste, 16 mai 68. Un spectre hante la planète, le spectre des travailleurs de Sudaviation. Sudaviation, c'est la première usine qui a été occupée avec une séquestration du patron local. C'était à Bouguenay, dans la banlieue de Nantes. Toutes les vieilles puissances de la Terre se sont groupées en une organisation des Nations Unies pour traquer ce spectre. Le pape et le président du Soviet suprême, donc voilà, ça va du Vatican à Moscou, Wilson et Mitterrand, les radicaux de France et les policiers américains. Donc en fait, ça, je ne sais pas si vous reconnaissez le début de ce texte, c'est le manifeste communiste, le manifeste du Parti communiste, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Voilà, c'est Marx et Engels, 1848, mais revisité ici, donc un spectre, et 68 deviendra d'ailleurs lui-même un spectre. Alors, il y a de la joie, en fait. Hein. Il y a de la joie en 68. Hein. C'est une autre dimension de cette expérience sensible du politique. La joie de se retrouver dans les rues, la joie d'arrêter de travailler, la joie de pouvoir imaginer des choses, pouvoir changer la vie. Je pense que c'est vraiment... c'est pas un slogan. Alors, plus tard, ça deviendra un mot d'ordre du Parti Socialiste, changer la vie, de son programme. En attendant, en 68, c'est beaucoup plus qu'un mot d'ordre. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui travaille. Quoi. Comment changer la vie? Et ça, ça rend quand même assez joyeux, comme on peut le voir sur un mur à Besançon, où il y a la Rodia. La Rodia, c'est une des grandes entreprises qui ont été occupées en 1967. Et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux. Et les émotions, elles ne sont pas beaucoup pensées quand même, en général en histoire. Ça commence à le devenir, mais évidemment, elles sont partout, ces émotions. Alors, Raymond Aron, que j'ai évoqué tout à l'heure, il déteste la contestation. Il en a très peur, et puis elle le met en rage. Et il le dit. En fait, ce qui est intéressant chez Raymond Aron, donc qui écrit dans le Figaro très régulièrement, plus il passe une partie des événements aux États-Unis, alors il est encore plus furieux d'être aussi loin, et de ne pas pouvoir avoir prise sur tout ça. Et il dit « Chacun a vécu cette période avec ses émotions. Personne à ma connaissance n'est resté calme, lucide, au cours de ces deux dernières semaines. » En ce qui me concerne, j'ai vécu ces semaines aux États-Unis dans la souffrance et en France dans l'indignation. Mais dans une indignation qui dépasse toutes les indignations que j'ai éprouvées au cours de mon existence. Et c'est intéressant parce que Raymond Aron va se mettre à se dire « Mais au fond, tout ça, c'est une question d'émotion. » Alors, dire ça, c'est évidemment une manière de dépolitiser l'événement. Il y a beaucoup d'observateurs, d'analystes qui vont dire c'est une crise d'adolescence, c'est une éruption, c'est pas une éruption de boutons, c'est une éruption de barricades, mais enfin ça revient à peu près au même. Et d'ailleurs le professeur Robert Debré, qui est le grand pédiatre qu'on connaît, il va lancer une enquête internationale menée sous les auspices de l'UNESCO, une enquête internationale sur les mouvements de jeunes, mais d'un point de vue psychopathologique. Voilà. La psychopathologie des événements de 68 dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? Ils vont pas bien? Comment on peut l'expliquer? Etc. Et Raymond Aron, il a déjà commencé, il a pas besoin de l'UNESCO pour ça. Et il nous dit, en 68, je rappellerai après d'autres, les travaux des biologistes. Biologiser l'événement, c'est intéressant. Nous savons que les rats et beaucoup d'autres animaux, à partir d'une densité excessive dans un espace donné, j'ai constaté ça dans le train bondé tout à l'heure en venant, manifeste tous les signes de dérèglement que nous rattachons dans le règne humain à la névrose. Les étudiants français, en particulier à Paris, souffrent d'une névrose de surpopulation. Alors voilà, ça fait partie des interprétations qui émanent de l'événement lui-même. Les observateurs qui disent, bon, alors comment on peut comprendre ça? Donc soit on fait de l'histoire pour le comprendre, comme Jean Ferniaud, soit on fait comme Raymond Aron, on essaie de comparer ça, enfin, on fait une éthologie en quelque sorte, de l'événement. Et on se dit, non, mais ils vont pas bien, voilà, donc il va falloir aussi les canaliser dans une certaine mesure. Bon, ces émotions, évidemment, elles sont très partagées, il n'y a pas que de la joie. Il y a aussi de la peur. Toujours Leslie Kaplan. Sur un mur, une fois, j'ai vu quelqu'un écrire « Je n'ai plus peur ». Il y a ça. Mais il y a aussi une militante angoissée. Angoissée qui croyait que la révolution dépendait d'elle. On était très angoissés, mais l'angoisse était un moteur, pas un frein. Et donc, il y a aussi cette peur quand même. Il y a de la peur partout aussi en 68. Il y a de la peur de la part des grévistes. D'abord, c'est difficile de faire grève. Et c'est pas anodin que les gaullistes fassent appel aux femmes, parce que c'est elles qui souvent tiennent les cordons de la bourse, qui sont là pour tenir le budget, etc. Et faire grève, c'est un grand sacrifice financier, d'autant que les journées de grève ne vont pas être payées. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a la peur aussi de ne pas être à la hauteur de l'événement. Il y a cette métaphore qui revient parfois, c'est l'idée que l'histoire est en train de passer, là. Ça y est, c'est de l'histoire, là, il y a de l'histoire, là, c'est comme un train en marche. Hein. Et est-ce qu'on va pouvoir l'attraper? Parce que, n'est-ce pas, Olivier, toi qui disais il n'y a pas très longtemps que tu voulais grimper, comme dans les westerns, sur le train, au-dessus du train, sur le toit du train, pour mieux l'attraper. Ben, c'est un peu ça, l'idée de certains protagonistes. Et, ça va trop vite, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle décision faut-il prendre, etc. Et puis, il y a la peur de celles et ceux qui regardent tout ça, notamment à la télévision, qui entendent tout ça, à la radio, qui voient des barricades, qui voient des pavés, qui voient comme ma maman, en fait, pour donner une anecdote très personnelle, elle était employée au chèque postaux à Lille à cette époque, elle avait 22 ans, et elle veut travailler. Elle n'a aucune conscience politique, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, elle ne comprend pas. Elle va au chèque postaux, et puis là, elle voit un piquet de grève, elle n'a jamais vu ça, et elle voit qu'il y a des affrontements, elle se souvient qu'elle voit des chaussures qui volent. Enfin, qui volent, voilà, apparemment, au moment où elle arrive, un petit matin, elle s'aperçoit qu'il y a des bagarres, et que des chaussures volent, et peut-être que des vêtements volent, et donc, elle tourne les talons, et elle rentre bien gentiment chez elle, mais, bon, en fait, elle, voilà, son objectif, c'était d'aller travailler, et sa seule problématique, ça a été, à cette époque, de ne pas pouvoir aller au mariage de son frère, que le mariage de son frère a été annulé parce qu'il n'y avait pas de transport, etc. Donc, il faut y penser, parce que, comme vous le savez bien, il y a les 10 millions de grévistes, il y a les 10 millions, enfin, 10 millions, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il y a les millions de personnes, centaines de milliers de personnes au moins, qui manifestent de l'autre côté, qui manifestent en soutien à De Gaulle. Mais il y a aussi tous ceux qui ne comprennent pas ou qui ont peur de cette guerre civile. Et on voit aussi dans les archives de police que les gens stockent. Voilà, ils stockent, ils achètent des pâtes, ils achètent du sucre, ils achètent de l'huile. Enfin, là. Et pourquoi? Parce que la guerre, enfin, voilà, c'est quand même, la guerre n'est pas loin. La guerre, la Seconde Guerre mondiale n'est pas loin, on s'en rappelle, c'est encore très présent dans la conscience. La guerre d'Algérie, enfin, il y a une peur de la guerre aussi. Alors, qu'est-ce que veulent ces gens? Et je vais essayer de ne plus être longue, parce que là, il est déjà 19h11. Alors, certains parlent de démocratie directe. Voilà. Certains disent, voilà, on peut imaginer ce que serait un pouvoir ouvrier, c'est-à-dire, voilà, un moment où Bah, on prendrait des décisions dans les entreprises, on pratiquerait l'autogestion, on n'aurait plus besoin de patrons. Ce serait le pouvoir ouvrier, hein, c'est entendre pas au sens sociologique du terme, pas au sens de l'INSEE, quoi. C'est pas les ouvriers qui travaillent dans le secteur secondaire. Non, c'est les ouvriers en tant que ce sont des travailleurs, quoi, qui pourraient prendre la décision eux-mêmes. Avec l'idée de... l'idée d'une transition. Comment on peut opérer une transition du système tel qu'il existe, capitaliste, hein, voilà, fondé sur la concurrence et le profit, à un autre système, qu'on n'appelle pas forcément d'ailleurs, parce que c'est pas forcément, on parle pas beaucoup de communisme pour des raisons qu'on peut imaginer déjà à cette époque, mais alors la réduction du temps de travail sans diminution de salaire, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires doivent évoluer en fonction du coût de la vie, le contrôle ouvrier sur la production, l'ouverture des livres de compte, le veto ouvrier sur l'embauche et les licenciements, c'est-à-dire encore une fois que les ouvriers puissent discuter eux-mêmes de leurs conditions de travail, la suppression du secret bancaire, etc. Alors, certains se... Voilà, il y a des gens qui se réunissent dans leur quartier, exemple, rue Raymond Losserand à Paris, donc ça on trouve à Nanterre, la BDIC, c'est la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. Ils ne se connaissent pas au départ, puis ils commencent à réfléchir, tiens, ça serait quoi une société sans publicité? Qu'est-ce que ça serait une société sans monnaie, sans concurrence? Quand vous lancez des idées vraiment opposées à ce qui est généralement admis, vous pouvez vous attendre à vous faire traiter de doux rêveurs. Un an après, vous rencontrez à nouveau celui qui s'était moqué de vous, et vous êtes étonné de constater qu'il a réfléchi, qu'il commence sérieusement à se poser des questions. Au total, le renouvellement profond de notre société n'est pas si utopique qu'on pourrait le croire. Et donc c'est un peu le « et si », hein, ce que je nomme après d'autres, le réel de l'utopie. Des choses qui sont posées. Alors, il y a des revendications qu'on appelle matérielles. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée qu'on opposerait des revendications matérielles qui seraient soutenues par la CGT, c'est-à-dire augmentation des salaires, diminution du temps de travail. C'est très important, ces revendications matérielles. Il faut pas les balayer d'un revers de main. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, ces conditions de travail, elles sont rudes. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une usure des corps aussi dans beaucoup de lieux de travail. Et puis parfois pour des salaires pas du tout élevés. Donc c'est très important. Et à partir parfois de ces revendications matérielles, on peut aller plus loin. Voilà. Il y a plein d'endroits où on se pose des questions comme ça. Et ça peut être donc chez les ouvriers, qu'on voit dans les comités de grève. Les danseuses et danseurs de l'Opéra de Paris, pour la première fois de leur histoire, se réunissent en Assemblée Générale, hein, quasiment tous les jours, en mai 68, mai et juin. Et se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager dans la société, pour arrêter de vivre un peu en marge? Alors on peut justement aider à penser la danse, c'est-à-dire à penser le corps, à penser l'harmonie, à penser davantage de créativité. Et ils sont en grève. Les chauffeurs de taxi, qui sont en grève, et qui pour la première fois se mettent à poser, pour la première fois au sens que ce n'est pas encore un sujet véritablement, hein, ça viendra un peu plus tard dans les années 70, la question de la pollution. Ils se mettent en grève, ils font des tracts, et voilà. Et regardez, nous, dans quelles conditions on travaille, et puis ça vous concerne aussi. Il y a la question de l'art, hein, du coup, qui est posée. Parce qu'il y a beaucoup de poésie en 68. Bien sûr, dans les écoles des beaux-arts, moi j'aime bien cette photo parce qu'elle nous montre un peu l'envers du décor. On connaît les affiches des écoles des beaux-arts à Caen, notamment à Paris, entre autres. Mais là, elles se reposent là. Elles sont prêtes à être diffusées, mais elles sèchent. Elles se reposent avant d'être agissantes. Donc il y a des poèmes anonymes. Alors j'aime bien celui-là parce que on dirait du Mallarmé et en même temps c'est quand même 68. Voix sublimement triste, oh qui montait de la profondeur d'un jadis, de roches très anciennes, je vous emmerde. Grande phrase, envolée aux cirtes de l'exil, grand phoque de voilier plein de souffle immortel, j'oublie un S, je vous emmerde. Et voilà. Et donc, il y a de la poésie, il y a des ouvriers qui, par exemple, dessinent des fresques sur les murs de leurs usines, et Leslie Kaplan, encore elle, très inspirante sur 68, dit « on quittait sa cage, on refusait la catégorie, la case et le cas, on voulait être autre chose qu'une fonction de production ». Et donc ça ramène aux grandes expériences historiques, comme à Renaud Cléon, vive le Front Populaire. Et alors évidemment, les manifestants, ils sont des deux côtés. Et ils sont très 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 nombreux à protester contre la contestation, le 30 mai 68, sur les Champs-Élysées. Ah, j'aime bien cette photographie-là, elles sont très peu connues ces photographies. Mais voilà, des jeunes, des vieux, des gens qui rappellent aussi leur expérience militaire. Voilà. Des médaillés. Et aussi, alors là, on les connaît moins, ces autres icônes de mai et de juin. Ce sont ces jeunes femmes qui manifestent leur soutien au général de Gaulle, au pied de l'Arc de Triomphe à Paris, en brandissant un autre drapeau, qui est le drapeau tricolore. C'est plus le drapeau du FNL, c'est plus le drapeau rouge ou le drapeau noir. Cette photo-là, quand même assez magnifique, sur les Champs-Élysées, de ces jeunes qui se disent « Mais c'est pas loin de l'Arc de Triomphe, nous allons triompher, parce que finalement nous sommes nombreux, nous aussi, et nous pouvons nous manifester. Le gaullisme n'est pas mort. » Titre « Le Patriote ». Alors, juin, et je vais terminer, hein, je vous rassure, bientôt, très très bientôt. Juin est d'une immense densité, d'une immense intensité de ce point de vue, parce que c'est là que vraiment le pouvoir se mobilise. Ça ne veut pas dire que juin serait tout entier consacré au pouvoir et aux élections qui sont prévues à la fin du mois, donc le 23 et le 30 juin. Les élections législatives donc anticipées, puisque l'Assemblée a été dissoute sur ordre du général de Gaulle. Se constituent donc les comités de défense de la République est en danger, je vous ai montré ça tout à l'heure, oui, et la Révolution quand même, mais la Révolution avec de Gaulle. Donc ça qui est intéressant, c'est que la Révolution elle est partout en fait, elle est quand même dans les consciences, on croit en la Révolution, on espère en la Révolution, à tel point que du côté des jeunes gaullistes, on reprend le mot, pour la France, les jeunes assument la Révolution avec de Gaulle, tous à l'esplanade du Trocadéro, le 4 juin. Venez au CDR, jeunes, CDR, Comité de défense de la République, faire avec nous la révolution dans la paix. Intéressant quand même, oui à la défense de la République, non au communisme totalitaire. Donc il y a vraiment, chez De Gaulle et dans les différentes organisations qui émanent du pouvoir, qui sont très très bien organisées justement les CDR, l'idée que, voilà, halte au rouge quand même. Voilà. C'est la peur du rouge qui a aussi réactivé la peur du noir aussi des anarchistes. Hein, pas ça, vous connaissez sans doute cette affiche, mais la réforme avec De Gaulle. Donc, soit la révolution, soit la réforme, mais en tout cas ça va quand même changer. Signifie qu'il faut que ça change. Il y a un très beau poème de Prévert, hein, à propos de cette manifestation du 30 mai sur les Champs-Élysées. Et qui dit « On ne peut pas crier, on ne peut pas tomber plus bas. Renault au boulot », parce que c'était un des slogans qui était scandé par les gaullistes le 30 mai. « Misérable slogan hurlé, Champs-Élysées en toute sécurité, Renault au boulot, la France aux Français, cri de peur bleue, de terreur blanche, de honte rouge refoulée, Renault au boulot, ouvrier à la chaîne, chômeur au malheur comme chien à la niche, mineur à la misère, gueule noire au grisou, paysan n'importe où, et nous entre nous, chez eux, chez vous. » Et puis, je le rappelle, hein, voilà, toujours cet enragé, qui titre « La voix des braves gens, comme médite à Dachau ». Ça a été dit très clairement, on l'entend à la Concorde. Et puis il y a les morts de juin. Ça c'est une photo très très rare, hein, qu'on a pu exploiter pour cette exposition là de la Bibliothèque nationale de France. Une photo du photographe Pablo de Munoz. Ça se passe à Flins, près de Flins. Donc Flins c'était l'usine Renault qui a tenu longtemps Flins, tiens, vous l'avez vu tout à l'heure, dans la grève. Il y a eu de grands affrontements entre le 4 et le 11 juin. Et le 11 juin est mort Gilles Totin. Donc c'est un lycéen maoïste, militant maoïste de 17 ans, qui était venu prêter main forte comme des centaines et des centaines d'autres personnes. Là aussi, les archives policières le montrent bien. Prêter main forte aux ouvriers qui voulaient lutter contre l'invasion des CRS dans leur usine. Et le lendemain, au petit matin, mourront aussi deux ouvriers qui s'appellent Pierre Bellot et Henri Blanchet, dont en général on ne connaît pas les noms et d'ailleurs qu'on a oublié, et qui meurent là aussi lors des affrontements avec les CRS qui envahissent la plus grande usine de France, qui est l'usine Peugeot à Sochaux. Et plus tard, un autre mort oublié de juin s'appelle Marc Lanvin. C'est un colleur d'affiches du Parti communiste français qui est abattu par des commandos d'extrême droite pendant la campagne électorale. Et du coup, en juin, il y a aussi, je vous le disais tout à l'heure, des expulsions. Il y a des organisations qui sont dissoutes. Et là, les archives du ministère de l'Intérieur sont très intéressantes parce que le ministère de l'Intérieur donc décide de dissoudre 11 organisations de gauche révolutionnaire. Et se dit, mais est-ce qu'on va dissoudre aussi Occident? Occident, c'est un groupe néo-fasciste, hein, qui se réclame de la civilisation occidentale, blanche, etc., chrétienne. Occident, c'est pas anodin que ça s'appelle comme ça. Et non, le ministère de l'Intérieur dit, ah ben non, mais il n'y a pas de trouble à l'ordre public du côté d'Occident. Alors que, bon, pourtant, ils sont quand même... Ce sont des activistes, et d'ailleurs, certains pourront peut-être raconter ce qui se passe ici même à Mont-Saint-Aignan avec des commandos d'Occident qui viennent tenter de récupérer la fac occupée. Et puis finalement, comme le disent les archives de police, hein, ils détalent comme des lapins, parce que, en fait, ils sont pas assez nombreux face aux occupants de la fac. Je vais terminer avec quelques clichés, puisque tout à l'heure, Olivier parlait de notre première grande lutte, hein, de notre occupation, parce qu'il y a eu une occupation ici, hein, pendant le CPE en 2006. Il y a eu des mobilisations très importantes, et c'est intéressant que le visuel de 68, voilà, soit toujours plus ou moins là, qu'il y ait une vie de 68 dans les différents moments politiques et sociaux qui scandent notre contemporanéité. Le fameux « Sois jeune et tais-toi ». Mais il y a aussi des renversements d'images. Les fameuses affiches des écoles des Beaux-Arts, nous irons jusqu'au bout, récupéré par le printemps français, ou la manif pour tous, touche pas au mariage, occupe-toi du chômage. Pareil, mai 68, début d'une nuit prolongée, grande affiche de 68, on veut du boulot, pas du mariage homo. Mais moi, je préfère rester sur une autre image, c'est celle que j'ai choisie pour la couverture du livre. J'aime beaucoup cette photographie, parce qu'elle dit plein de choses. Elle dit la joie de mai, elle dit les occupations des usines, elle dit la province, ça se passe à Lyon, elle dit les femmes, elle dit les jeunes, les plus anciens, elle dit la subversion, elle dit la joie d'être là dans l'événement et d'y participer pleinement. Voilà, j'étais un peu trop longue, mais je vous remercie d'avoir quand même été attentif. Merci beaucoup.